Bonjour, je voudrais commencer par revenir sur des développements que je faisais la semaine passée sur la mémoire et l'espace, sur la mémoire rhétorique, hein, puisque je parlais de cette représentation spatiale de la mémoire dans la tradition rhétorique, et je suggérais que cette représentation n'était pas étrangère à la mémoire chez Proust. Or, ce n'est pas de cette façon qu'on se représente d'habitude la mémoire proustienne, tout au contraire, et je voudrais donc atténuer ou présenter un peu autrement cette analogie que je proposais entre la mémoire proustienne et la vieille mémoire rhétorique. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une identification. Depuis la semaine passée, en préparant ce cours, je lisais un livre très beau d'un professeur qui était ici il y a encore quelques années, dont certains ont peut-être suivi les cours, Harald Weinrich, qui parlait beaucoup de la mémoire, et notamment de la mémoire rhétorique, et qui a publié en 1999 un livre intitulé « L'été, art et critique de l'oubli ». Parlant de l'oubli, bien sûr, il parlait aussi de la mémoire, et nous, parlant de la mémoire de la littérature, nous aurons évidemment à parler de l'oubli, qui, chez Proust, est évidemment tout aussi important que la mémoire. Il n'y a de mémoire que sur le fond de l'oubli. Dans ce livre, Weinrich a une petite section, partie d'un de ses chapitres qui porte sur la mémoire chez Proust, et dans ce chapitre, il écrit, mais c'est une idée qu'on retrouve assez souvent, « Rien dans son œuvre n'indique qu'il ait attendu quoi que ce soit de la mnémotechnie rhétorique ». Weinrich s'inscrirait donc en faux contre ce que j'essayais de présenter la dernière fois sur l'idée d'un rapport entre mémoire chez Proust et tradition rhétorique de la mémoire des lieux et des images, puisque c'est cela, la mémoire rhétorique, c'est celle des lieux et des images. Alors, je voudrais, bon, il n'est pas là, mais essayer de lui répondre et de montrer que on peut maintenir l'idée d'une pertinence de cette analogie entre mémoire proustienne et mémoire rhétorique. Mais d'abord, allons un moment dans le sens de Weinrich. Quels sont les arguments qui plaident, en effet, pour une profonde opposition entre la mémoire chez Proust et la mémoire rhétorique? Je crois que le premier argument qu'on pourrait donner, c'est évidemment que pour Proust, la rhétorique n'a pas très bonne presse au début du XXe siècle. La rhétorique est encore une tradition scolaire. N'oublions pas que la classe de première est encore appelée en France classe de rhétorique jusqu'à la réforme du secondaire de 1902. Proust a donc encore été en classe de rhétorique avant d'aller en classe de philosophie, et la rhétorique appartient à cette culture qui est, comment dire, un peu accessoire, secondaire, liée à l'école secondaire. Voici par exemple, il y a plusieurs fois des références dans La recherche du temps perdu à la rhétorique au sens de la classe de rhétorique, bien sûr. Mais voici par exemple cette conversation du narrateur avec le baron de Charlus dans Le temps retrouvé à propos de la guerre et des articles de Norpois. C'est donc Charlus qui parle et qui dit « Notre excellent Norpois a beau écrire en sortant un des accessoires de rhétorique qui lui sont aussi chers que l'aube de la victoire et le général Hiver, maintenant que l'Allemagne a voulu la guerre, les dés en sont jetés, La vérité, c'est que chaque matin, on déclare à nouveau la guerre. On a donc une expression accessoire de rhétorique, un des accessoires de rhétorique, pour désigner ces clichés, ces stéréotypes, ce qu'on appelle des lieux communs, sous la plume de Norpois. Et nous savons que Norpois, comme beaucoup d'autres dans la recherche du temps perdu, accumule ces lieux communs, Brichot, Cottard, notamment, parle avec de nombreux lieux communs. Le narrateur et l'auteur sont fort sensibles à ce mode de discours par lieu commun, mais vous voyez que ce qu'il reste ici de la grande tradition rhétorique, ce sont ces accessoires, et nous sommes au bout d'une tradition pour laquelle le lieu commun, ce n'est plus un contenant, mais c'est un contenu, hein, selon un déplacement métonymique qui a eu lieu au cours des siècles, et suivant lequel le lieu commun s'est figé, alors qu'il était, pour Aristote, dans la topique, la liste des arguments communs aux différentes causes, eh bien, un petit peu comme dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, ou comme pour Bouvard et Pécuchet, le lieu commun, c'est devenu une formule un peu creuse et qui se transporte de livre en livre, tel l'aube de la victoire, le général hiver, où les dés sont jetés. La culture rhétorique, elle est donc, chez Proust, largement dégradée, en effet. Alors ici, j'ai un petit mot qui me demande, lorsque je fais des citations, d'indiquer les pages, ce que je n'avais pas fait dans les cours précédents. Eh bien, je crois que je vais le faire, puisqu'on me le demande. Dans ce cas-là, je renverrai la Pléiade, puisque la nouvelle Pléiade, la Pléiade qui a été publiée à la fin des années 1980, 87, 89, c'est toujours à cela que je renvoie. Et cette citation se trouve dans le tome 4, page 375. Enfin, ça va peut-être un peu alourdir mon propos si je dois toujours donner ces références. Enfin, on va essayer de s'y plier. En tout cas, je les ai, donc pourquoi ne pas les donner? Deuxième élément pour mettre en cause cette culture rhétorique dont Proust me semble assez éloigné, les réserves que l'on peut trouver à différentes reprises pour ce qu'on peut appeler la collection. Je crois qu'il faudra qu'un jour, dans un chapitre, dans un cours, j'aborde ce rapport de la mémoire et de la collection. Vous vous souvenez que la semaine passée, évoquant ce signe mémoratif, ce mémoratif de Rousseau, chez qui on peut trouver certainement quelque chose qui annonce la réminiscence involontaire proustienne, je disais que Rousseau en donnait deux exemples, l'air de musique, même s'il est mauvais, un peu comme la petite phrase de Vinteuil, et l'herbier qui est déjà une collection. Or, Proust est évidemment très éloigné de cette tradition de la collection de l'herbier. Voici ce qu'il en dit, par exemple, c'est dans Combré, tome 1, page 177, à propos justement de l'échec de sa vocation d'écriture à la fin de Combré. Grand thème qui traverse toute la recherche, l'échec de l'écrivain. Ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre, les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Alors on a là une parenthèse, comme souvent chez Proust, il y a des choses importantes dans ces parenthèses. La parenthèse, c'est la comparaison. Ces choses qui s'accumulent dans son esprit, dans son esprit, impuissant à les transformer en littérature, comme des fleurs cueillies, un peu l'herbier de Rousseau, qui n'est pas ici mémoratif, des objets qu'on m'a donnés, eh bien ce qui s'accumule de manière vaine, qui est signe d'échec, ce sont des sensations inabouties, qui n'ont pas été au bout de la réflexion qu'elles sont censées susciter, comme on le découvrira à la fin du temps retrouvé. Donc une pierre avec un reflet, il y a là un élément visuel, un son de cloche, une odeur, bruit, odeur, un toit, donc une image, une couleur, bien des images différentes. Il y a donc une grande méfiance de la part du narrateur de la recherche du temps perdu à l'égard de cette mémoire de l'intelligence, de cette mémoire rationnelle qui est très souvent identifiée à la mémoire des yeux. Les yeux, pour le narrateur, c'est le sens de l'intelligence. Et on le sait, les réminiscences proustiennes capitales, ce ne seront pas des réminiscences qui passent par les yeux, mais par les autres sens. Il y a donc une méfiance à l'égard de tout ce qui est de l'ordre de, oui, de la collection. Souvenons-nous ici de Swann, collectionneur et artiste impuissant. Je pense que j'aurai à y revenir puisque c'est un aspect important, c'est un aspect qui peut relier également Proust et Walter Benjamin, l'auteur allemand qui a été l'un de ses premiers traducteurs, très intéressé à la notion de collection. Et dans la collection, il y a le rapport entre l'impuissance et l'idolâtrie. C'est celui qui idolâtre les objets et qui est incapable d'aller au-delà de ce sentiment d'idolâtrie. Toujours au tout début de Combray, dans cette ouverture que je commentais les semaines passées, cette mémoire de l'intelligence, qui est donc une mémoire des yeux, est fortement discréditée. C'est juste avant le passage sur la Madeleine qui va transformer les choses. « Comme ce que je m'en serais rappelé de Combray m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. » Souvenez-vous de l'ouverture, la seule scène de Combray dont le narrateur s'est d'abord souvenu, c'est le drame du coucher, la lanterne magique et puis le drame du coucher, et puis il y a une sorte d'échec de la mémoire de l'intelligence, de la mémoire volontaire qui ne transmet que des éléments morts du passé, les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui. Dans un entretien qu'il a donné au journal Le Temps, le jour de la publication de Du côté de chez Swann, en 1913, un entretien qu'on trouve aujourd'hui dans le volume de la Pléiade, le Contre Sainte-Beuve dans la Pléiade, Proust, de manière assez pédagogique, expliquait son projet dans le roman dont le seul premier volume était en cours de publication. Et il disait, la mémoire volontaire, qui est surtout une mémoire de l'intelligence et des yeux. Vous voyez cette association qui est toujours faite entre l'intelligence et les yeux, ne nous donne du passé que des faces sans vérité. Alors, on peut s'interroger un moment sur ce mot de face. Elle nous donne simplement la surface, la silhouette de la vérité. Elle n'a pas, j'ai envie de dire, ni profondeur ni couleur. C'est ce qui manque à ces effigies de vérité qui sont celles de l'intelligence. Et Proust, dans cet entretien, compare ces faces sans vérité à des images de mauvais peintres. Et il leur oppose, comme souvent dans son roman, d'autres sensations qui ne passent pas par les yeux et qui sont, en l'occurrence, les odeurs et les saveurs. Aux yeux, à la vision, aux images, Proust oppose odeurs et saveurs qui, dit-il, nous rapportent les choses dans un exact dosage de mémoire et d'oubli. Exact dosage de mémoire et d'oubli. Très belle expression pour désigner, on en trouverait d'autres assez équivalentes ailleurs dans la recherche du temps perdu, sur ce dosage de la mémoire et d'oubli qui définit à ses yeux cette mémoire involontaire et qui rapporte, dit-il dans cet entretien, qui rapporte, et c'est pourquoi il y a quand même une dimension visuelle qui ne disparaît pas, qui rapporte les couleurs. Elle rapporte les couleurs. Vous le voyez, on ne se débarrasse pas si aisément du visuel. La mémoire des yeux ne nous donne que des faces sans vérité, des effigies, des surfaces, des silhouettes, tandis que les odeurs et les saveurs, les souvenirs involontaires en général, nous rapportent les choses elles-mêmes et, Proust précise ici, les couleurs. On retrouve, me semble-t-il, ici le visuel et on peut sans doute remarquer que dans ces couleurs, il y a quelque chose qui rime avec odeur, saveur. Odeur, saveur, couleur. Voilà ce que nous rapportent les mémoires involontaires. Et on pourrait citer de ces réminiscences qui apparaîtront plus tard dans la recherche et qui sont liées à une couleur. Par exemple, cet élément de lustrine verte qui est un leitmotiv à travers toute la recherche, un leitmotiv assez fugitif qui avait plus d'importance dans les brouillons. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui nous fait penser à de vieilles querelles sur le dessin et la couleur en peinture. La mémoire de l'intelligence, elle est du côté du dessin, de la silhouette, de la face. Cette mémoire de la sensation, cette mémoire involontaire, elle est plutôt du côté de la couleur. C'est la querelle fameuse entre Ingres et Delacroix. Mais vous le voyez, sans doute, voilà encore un argument qui irait contre une référence à la mémoire rhétorique et à la mnémotechnique. Mais enfin, l'élément de la couleur revient ici. Et n'oubliez pas, à ce propos, ce que je vous rappelais la semaine passée sur cette mémoire rhétorique qui insistait beaucoup sur les couleurs. Dans la rhétorique à Hérénius, les choses que l'on place dans les lieux pour se souvenir d'un discours, eh bien, ce sont des choses qui sont fortement colorées, justement, pour qu'on s'en souvienne. Allons donc un petit peu dans l'autre sens. Certes, ce n'est pas la mnémotechnie au sens traditionnel, mais ce qui m'intéressait de souligner, c'est le caractère spatial de cette mémoire proustienne qui est toujours définie, volontaire ou involontaire, des yeux ou des autres sens, comme une mémoire qui a une dimension architecturale, une dimension archéologique, une dimension spatiale. Toujours au tout début de l'ouverture, dans l'épisode même de la Madeleine, qui donc transcende cette mémoire des yeux, cette mémoire de l'intelligence, je lis ceci, « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur, vous les voyez revenir, toujours, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. L'édifice immense du souvenir. Et vous voyez ce souvenir qui n'a plus pour fondation que l'odeur ou la saveur, hein, ce peu de choses, cette gouttelette presque impalpable, il est décrit comme un édifice, comme une bâtisse, et comme l'expression que j'employais la dernière fois, comme un palais de mémoire. Il y a un palais de mémoire, l'architecture est partout, dans cette ouverture et plus loin dans la recherche du temps perdu, l'ouverture est faite d'une série de porches, de portiques successifs pour entrer dans Combray. On entre dans Combray à travers une série de portails qui s'ouvrent successivement, le dormeur éveillé des premières pages, puis les chambres qui donnent l'ampleur à cette ouverture au-delà de la chambre où se trouve le narrateur, puis la lanterne magique qui, elle aussi, pourrait être comparée à un art de la mémoire, à une représentation de la mémoire, avec ces projections de Golo et de Geneviève de Brabant. Donc les chambres, la lanterne magique, le drame du coucher, la Madeleine, il y a là toute une série de porches qui s'ouvrent successivement. Il n'y a pas d'exposition au sens classique du terme, c'est ce qu'on a reproché du reste à Proust au moment de la publication du premier livre, mais le lieu, le temps et l'action ne sont pas décrits, mais il y a un espace qui s'amplifie. Le roman a une structure topographique à son ouverture, structure topographique qui est, je dirais, très bien inscrite dans le moment où toutes les choses se mettent à tourner autour de ce dormeur éveillé des premières pages, tout se met à tourner, l'espace s'amplifie, et puis il se focalise sur un point fixe, ce que le narrateur lui-même appelle un point fixe. À Combray, tous les jours, on vient d'avoir la liste des chambres qui sont énumérées, Paris, Balbec, Doncières, Venise. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Il y a là, alors que tout s'est mis à tourner depuis le début, cette notion de point fixe qui sera celui de la focalisation du premier lieu de mémoire, Combray. Donc, après les éléments qui nous éloignent de cette mémoire de la rhétorique, les éléments qui nous en rapprochent, premièrement, l'importance de cette spatialisation, de cette architecture, de ces portails. Deuxièmement, je le signalais la dernière fois, l'importance des images. Allégorie de Giotto, que j'évoquais la dernière fois, qui sont des images frappantes, actives, agissantes. Mais je viens d'évoquer la lanterne magique. L'amour de Golo pour Geneviève, qui est représenté par ces images fragiles projetées sur le mur de la chambre, mais qui sont comparées aux vitraux de l'église. Et les vitraux de l'église, eh bien voilà encore, évidemment, des lieux rhétoriques qui disposent une mnémotechnique. Et puis, on pourrait ajouter que tous les porches d'églises et de cathédrales que l'on rencontrera, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans leurs détails aujourd'hui, et nous y reviendrons. Et puis il y a bien sûr la construction elle-même du livre qui se présente comme lui-même, comme une cathédrale. Troisième élément que je voudrais évoquer, c'est l'importance d'autres images qui nous renvoient à l'espace et à ce grand modèle spatial dans la recherche du temps perdu, ce sont toutes celles qui renvoient à la géologie. Très abondante dans la recherche du temps perdu, tout ce vocabulaire des couches, de la stratification, des résurgences de strates. Par exemple, dans un très beau passage qui se trouve dans Albertine disparue, où le narrateur est envahi par les souvenirs d'Albertine, ces souvenirs d'Albertine qui, en l'occurrence, sont des souvenirs douloureux, mais qui sont décrits en termes de géologie. Je vous le lis, c'est page 124-125 du tome 4. Soulevant un coin du voile lourd de l'habitude. L'habitude et la mémoire sont évidemment très liées, et là aussi, la mémoire dans son côté négatif, elle est liée à l'habitude. Soulevant un coin du voile lourd de l'habitude, l'habitude abêtissante qui, pendant tout le cours de notre vie, nous cache à peu près tout l'univers et dans une nuit profonde. Sous leur étiquette inchangée, substitue aux poisons les plus dangereux ou les plus enivrants de la vie quelque chose d'anodin qui ne procure pas de délices. Donc l'habitude, c'est cette mémoire de l'intelligence, c'est cette mémoire mauvaise qui, sous les poisons et les délices, ne découvre plus rien, qui les transforme en signes anodins. Eh bien, sous l'habitude, les souvenirs d'Albertine me revenaient comme au premier jour, avec cette fraîche et perçante nouveauté d'une saison reparaissante, d'un changement dans la routine de nos heures, qui, dans le domaine des plaisirs aussi, il s'agit de peine ici, mais le narrateur les décrit le même phénomène lorsqu'il s'agit de plaisirs, dans le domaine des plaisirs aussi, si nous montons en voiture par un premier beau jour de printemps ou sortons de chez nous au lever du soleil, vous vous souvenez de ce lever du soleil rare que je décrivais la première fois à la fin de Sodome et Gomorre, où précisément il est décrit dans les termes du crépuscule du matin de Baudelaire, hein, expérience rare auquel il est fait référence ici, ce lever du soleil qui renouvelle la vision d'un moment largement étranger à notre expérience. Par un beau jour de printemps où sortons de chez nous au lever du soleil, nous font remarquer nos actions insignifiantes avec une exaltation lucide qui fait prévaloir cette intense minute sur le total des jours antérieurs. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés. Oui, cette idée d'un recouvrement, hein, c'est ça qui va aller peu à peu vers cette métaphore de la géologie. Il y a une couche qui ressurgit et qui déborde sur une autre. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés et sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté, déposé en nous, comme dans une bibliothèque immense, où il y a des plus vieux livres, un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. On pourrait épiloguer sur cette vision de la bibliothèque qui est celle du narrateur ou celle de Proust, hein, vision qui revient à plusieurs reprises dans La recherche du temps perdu, la bibliothèque comme ce dépôt des livres abandonnés, hein, que personne ne vient demander, mais qui sont là en attente d'être désirés, ces livres. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est cette comparaison de la bibliothèque, plutôt de la mémoire, et de la bibliothèque, et du souvenir abandonné à la mémoire à cet exemplaire des plus vieux livres rarement demandés. Chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. Pourtant, que ce jour ancien, traversant la translucidité des époques suivantes, remonte à la surface et s'étende en nous qu'il couvre tout entier, alors, pendant un moment, les noms reprennent leur ancienne signification, les êtres leur ancien visage, nous, notre âme d'alors, et nous sentons, avec une souffrance vague mais devenue supportable et qui ne durera pas, les problèmes devenus depuis longtemps insolubles qui nous angoissaient tant alors. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs, mais cette superposition n'est pas immuable comme la stratification d'une montagne. Perpétuellement, des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes. Et vous voyez cette image, cette multiplication des images dans ce passage, hein, puisqu'on est passé de la comparaison à cette sortie au premier jour du printemps, cette sortie au lever du soleil qui renouvelle la sensation, puis on est passé à cette image de la bibliothèque où se trouvent tous les livres oubliés, mais survivants. Enfin, à cette image de la stratification avec ces couches anciennes qui se soulèvent perpétuellement et qui reviennent à la surface. Et le narrateur nous dit, à la différence des couches d'une montagne. Mais enfin, la géologie nous apprend que ces couches, justement, elles apparaissent un peu partout dans le paysage. Vous le voyez, en tout cas, il y a bien une double image du moi qui est ici évoquée, une image certes temporelle, celle de ces jours anciens qui sont recouverts par les jours nouveaux, mais aussi une image spatiale, pour désigner la bonne mémoire, celle de la bibliothèque, celle de ces stratifications géologiques, opposée à la mauvaise mémoire de l'habitude. Vous le voyez, on aura l'occasion de revenir à ces intermittences du cœur, mais les intermittences, ce sont des résurgences. Et l'image temporelle est sans doute moins prégnante que cette image géologique ou spatiale, pour la décrire. Voilà l'appendice que je voulais ajouter à cette analogie que je proposais la semaine passée entre mémoire proustienne et mémoire rhétorique à travers la spatialisation de la mémoire. Et maintenant, je voudrais aborder les rapports que j'annonçais à la fin de la semaine passée, les rapports de la mémoire et de la reconnaissance. Après mémoire et espace, la description de la recherche comme palais de mémoire ou comme topographie ou comme géologie, il me semble qu'il y a un corollaire de cette représentation spatiale de la mémoire et qui a trait à toute cette description du discours, de la pensée, de la lecture comme déambulation ou comme promenade. On marche dans un livre. Le rapport que je voudrais explorer un peu, filer un peu, c'est celui de la littérature et de la géographie, justement en m'opposant à la littérature et à l'histoire. La mémoire de la littérature, n'est-ce pas, une géographie de la littérature, bien plutôt qu'une histoire de la littérature. Et la première question que je voudrais poser, c'est celle de la manière dont on s'oriente dans la littérature? Comment s'oriente-t-on dans la littérature? Comment s'y reconnaît-on? Voilà le premier élément pour cette notion de reconnaissance, si importante dans la mémoire et si importante aussi dans la recherche du temps perdu. Réfléchissons un moment à cette métaphore, à ce modèle du roman comme paysage, comme terrain, comme territoire dont nous prenons possession. Et je voudrais commencer par, deux anecdotes, puisque ce sont des anecdotes qui m'ont mis sur le chemin de cette réflexion sur le voyage dans la littérature. Vous voyez que ce sont des métaphores, mais nous ne cessons pas de penser à travers ces métaphores. Des anecdotes qui m'ont mis sur le chemin, sur la voie, sur la route. On n'évite pas toutes ces métaphores pour la pensée et le discours. Première anecdote, je me permets des anecdotes qui sont un petit peu personnelles, mais vous allez voir pourquoi. Un jour que j'allais en Italie et que je me rendais à un colloque, un collègue que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, m'attendait dans une gare. On va venir à des gares tout à l'heure, avec Proust justement, pour me conduire à quelques kilomètres de là, dans un village où avait lieu le colloque où nous nous rendions. Il me prend en voiture à la gare, et puis nous empruntons un boulevard, une sorte de boulevard devant la gare, assez anonyme, dans une direction qui me sembla être celle du sud. Puis il bifurqua et j'ai eu le sentiment que nous allions vers l'ouest et que nous rejoignîmes une sorte de périphérique autour de la ville où nous nous trouvions. Et puis il hésita, il fit demi-tour, et puis il l'emprunta vers le sud, puis il l'emprunta à nouveau vers le nord. Et après quelques minutes et quelques kilomètres, nous étions absolument perdus. Il s'arrêta au bord de la chaussée, comme c'était un périphérique, c'était assez dangereux, et il héla une passante. Ce n'est pas la passante baudelairienne ou la passante proustienne que j'évoquais l'autre jour. En tout cas, à ce moment-là, je lui dis avec délicatesse qu'il me semblait que nous étions en train de tourner en rond. Et ce collègue me répondit oui, c'était possible, qu'il venait ici très souvent, au moins une fois par an, depuis 15 ans, mais qu'il ne retrouvait jamais son chemin, qu'il se perdait toujours. À ce moment-là, je vis un poteau indicateur au bord de la route et je lui indiquais son chemin. Une fois sur la bonne route, je lui demandais qui il était, puisque nous n'avions pas eu le temps de nous présenter, nous étant égarés sur le champ. Je lui demandais quelle était sa spécialité littéraire, et il me répondit qu'il était un spécialiste du réalisme et du roman réaliste. Et je ne peux lui cacher que cette réponse me surprit un peu. Enfin, comme on dit assez simplement, il ne me semblait pas très réaliste. Mais la réflexion que je voudrais introduire à ce sujet, c'est l'idée qu'au fond, c'est ça qui me frappa, il ne devait pas avoir la même conscience de l'espace, de la ville, de la topographie que la mienne. Et je me dis en même temps que nos conceptions du roman devaient être différentes. Je ne devais pas me représenter mentalement un roman de la même façon que lui. Par exemple, un roman comme Le Père Goriot de Nadja, le Père Goriot de Balzac, ou Nadja de Breton. Père Goriot ou Nadja, voilà des livres dans lesquels la géographie de Paris est en quelque sorte essentiel et procure une représentation mentale de l'espace du roman. Nous nous rendions à un colloque qui allait porter sur le roman réaliste, mais je me disais bien que cette notion ne pouvait pas avoir le même sens pour nous deux, et sans doute est-elle très différente pour les uns et les autres. Me semble-t-il, nous ne pouvions pas nous représenter mentalement un roman de la même manière. Quand j'aborde un roman, je suis pris d'une sorte de flottement initial, de désorientation, d'embarras dans la lecture des premières pages, et je peux bien soupçonner que pour ce collègue ou pour d'autres lecteurs, cette espèce de brouillard initial n'est peut-être jamais surmonté, mais en même temps qu'il ne procure pas une inquiétude, voire une anxiété. Je me dis que peut-être ce brouillon ne gêne pas tout le monde. Pour un lecteur qui n'aurait pas le sens de l'orientation, peut-être après tout que l'analogie du roman et de l'espace géographique, du roman et de la ville, n'est pas pertinente. J'ai l'impression en tout cas que pour moi, il y a une assez forte analogie dans la représentation mentale entre le roman et l'espace, entre le roman et la carte. Lire un roman et lire une carte. J'avance cette idée, mais peut-être est-elle totalement absurde, et les psychologues cognitivistes nous diraient que ce n'est pas du tout avec les mêmes régions du cerveau qu'on lit un roman et qu'on lit une carte. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble qu'on peut filer un moment cette idée qu'un roman, c'est un espace qu'on parcourt, qu'on habite, que dans un premier temps, quand on y entre, on est désorienté, qu'on le maîtrise peu à peu par la pensée, et aussi on pourrait dire c'est un espace dans lequel on découvre à chaque relecture de nouvelles promenades. Mais je puis bien supposer que pour d'autres lecteurs, le roman reste une sorte de labyrinthe. En tout cas, cela amène à réfléchir à cette idée de représentation mentale que nous avons du roman, de son intrigue, et peut-être à conclure que nous n'avons pas tous la même représentation mentale du roman. Il faudrait ici peut-être faire des développements sur les rapports plus précis du roman de Proust et de la géographie. Il y a un livre d'André Ferré qui s'appelle « La géographie » de Marcel Proust, dans lequel, par exemple, André Ferré cherche à dessiner une carte de la région de Balbec. Mais a-t-on besoin d'une carte pour se représenter la région de Balbec? Je n'en suis pas sûr. Et lorsque j'avais fait l'édition de Sodome et Gomorre, j'avais trouvé dans un brouillon de Proust une ébauche de carte de la région qui était tout à fait aberrante. Et donc, il n'y a pas à pousser au bout cette idée de représentation mentale, mais en tout cas, à entretenir un moment l'idée que nous entrons dans un roman comme dans un espace, que nous sommes d'abord désorientés, et après tout, n'est-ce pas cette expérience même que thématise le début de La recherche du temps perdu, qui nous parle de désorientation dans ce système des chambres dans lesquelles le narrateur est perdu. Le second point de départ pour cette réflexion sur roman et espace, c'est une réflexion que m'avait faite un étudiant non plus un collègue perdu, mais un étudiant qui, au contraire, était, j'ai envie de dire, pas du tout perdu. À la sortie d'un de mes cours à la Sorbonne, il y a quelques années, et c'était un cours où justement j'avais parlé de cette expérience de la lecture. Et j'avais insisté sur ce sentiment d'égarement, de désorientation, de trouble que l'on éprouve habituellement lorsqu'on ouvre un nouveau roman. Ce sentiment de trouble qui peut durer un certain nombre de pages, peu de pages si c'est un roman facile, il peut durer assez longtemps si le livre est plus difficile. Pendant cette durée, on manque de repères, on ignore où on va, on se demande quoi attendre du livre. Puis peu à peu, le monde du roman devient plus familier. Les phénoménologues ont assez bien étudié cela. Ils ont dit qu'on construisait un modèle d'attente et que ce modèle d'attente était ensuite infléchi par la progression de l'intrigue qui ou bien confirmait notre attente ou bien corrigeait cette attente. Bref, que après un certain nombre de pages, dans le roman, on se sentait de plus en plus chez soi. Mais je voudrais insister sur cette première expérience, vaguement inquiétante, ce sentiment de désorientation, de perte, peut-être d'angoisse, comme on avance de manière précautionneuse dans l'obscurité, dans une maison, dans une ville inconnue. Et pour moi, il me semble que c'est une expérience très importante, que celle de cette désorientation inaugurale dans toute lecture. Encore une fois, c'est l'expérience même que thématise le début de la recherche du temps perdu, la désorientation. On peut sans doute penser qu'il y a des livres que l'on abandonne avant d'avoir franchi cette limite. Après une centaine de pages, le livre résiste toujours, on ne sait toujours pas où on va, et à ce moment-là, on le laisse de côté. On peut aussi penser qu'il y a peut-être des livres dont l'intention est que l'on n'y soit jamais à l'aise et qu'on ne franchisse jamais ce moment où on s'y sent chez soi. Et le jour où je disais ça dans un cours à la Sorbonne, j'avais donné justement l'exemple de la recherche du temps perdu, où on est décontenancé pendant un certain temps. Proust le sait bien, puisque c'est ce qu'il dit au journaliste en 1913 au moment de publier son roman. Mais j'aurais pu donner bien d'autres exemples, par exemple La Chartreuse de Parme. Le lecteur de La Chartreuse de Parme doit attendre la fin de la bataille de Waterloo et le retour de Fabrice en Italie pour un retour en arrière. Et ce retour en arrière, à ce moment-là, est l'exposition qui vient plus tard, qui occupe tout un chapitre et qui relate la rencontre de Gina et de Mosca et qui définit le roman comme une chasse au bonheur. Mais dans La Chartreuse de Parme, tout le début, à Milan, et puis la bataille de Waterloo, le lecteur est un peu désorienté, et d'ailleurs Balzac, dans son article sur La Chartreuse de Parme, qui connaissait bien les règles du roman, avait conseillé à Stendhal de supprimer tout le début. Heureusement que Stendhal n'a pas cédé, hein, il a essayé de le faire. Stendhal a essayé de satisfaire Balzac et de supprimer Milan et Waterloo. Mais il n'a pas cédé, et le lecteur est, c'est vrai, d'une certaine façon désorienté jusque-là. Dans Combray, il me semble que le lecteur reste incertain du projet, au moins jusqu'à la résolution de l'épisode de la Madeleine, qui relance la quête des souvenirs, et le lecteur est désorienté jusqu'au début du deuxième chapitre, là où on trouve le chiffre 2 d'encombré à la page 47 de la Pléiade, et où il y a enfin une phrase qui prend un peu de hauteur et de distance, « Combré, de loin, à 10 lieues à la ronde, vu du chemin de fer », page 47. Mais jusqu'à cette page 47, qui, pour ainsi dire, rattrape un début de roman un peu plus traditionnel, une exposition d'un lieu vu de loin, on peut être désorienté. La scène de l'ouverture n'est pas située dans l'espace et le temps. « Longtemps je me suis couché de bonne heure, mais quand, où et qui ?» Les bonnes vieilles questions de la rhétorique sont laissées en suspens. La scène de l'ouverture n'est pas située. Les réveils et les rêveries nocturnes non plus. Et vous le souvenez, vous en souvenez, il y a cette identification curieuse au livre. « Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage ». Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Voilà encore cette mémoire de la littérature. La première personne qui est là s'identifie à ces livres. Quelqu'un se réveille dans la nuit et tâche de s'orienter dans l'obscurité, fait défiler les chambres d'autrefois, mais moi, lecteur de ces pages, je suis un peu désorienté. J'ai toute raison d'être désorienté. Or, après que j'avais expliqué cela dans un cours, un étudiant est venu me voir à la sortie et m'a dit que quand il avait lu du côté de chez Swann, c'était dans l'édition Folio, et qu'il avait commencé par lire la préface, dont, pour mon malheur, je suis l'auteur. Que celle-ci lui avait été très utile pour comprendre le dessin du roman, et que du coup, il n'avait pas été du tout déconcerté en commençant à lire du côté de chez Swann. Il s'était senti d'entrée de jeu, de plein pied, chez lui, dans le texte de Proust, et il n'avait pas fait cette expérience du dérangement noté par tous les premiers lecteurs de 1913, qui durent attendre 1927 et le temps retrouvé pour comprendre ce que Proust avait voulu faire. Les remarques de cet étudiant m'ont laissé un peu perplexe. D'une part, comme auteur de la préface, je n'étais pas mécontent de ce qu'il me disait, mais enfin, je regrettais quand même beaucoup pour lui qu'il ait lu cette préface avant de s'aventurer dans la recherche. C'est ce qu'on peut regretter des éditions critiques. Ce sont des guidanes. Je regrettais qu'il n'ait pas connu ce moment qui, me semble-t-il, est particulièrement important et émouvant, où un roman prend possession de vous. Ce moment qui est vraiment celui de l'empathie, de l'identification, où on se met à vivre avec une certaine peine, dans la fiction, avec les personnages. Et je répondis à cet étudiant que je ne lisais jamais les préfaces avant les romans parce que j'aimais trop ce moment suspendu, ces sortes de limbes qui préludent à l'orientation dans un roman que, me semble-t-il, c'est l'un des grands plaisirs de la lecture qui est au fond l'innocence de la première fois. On pourrait dire donc que nous nous divisons entre ceux qui lisent les préfaces avant les romans, comme cet étudiant, ceux qui lisent les préfaces après les romans, je crois que c'est ce que j'ai toujours fait, et puis bien sûr, il y a ceux qui ne lisent que les romans, ce sont peut-être ceux qui ont vraiment raison, et puis sans doute, il y a aussi ceux qui ne lisent que les préfaces. En tout cas, ce que je voudrais dire par ces deux introductions un peu anecdotiques, c'est qu'on peut se représenter un roman comme une ville inconnue, comme une maison inconnue, dans lesquelles on débarque dans l'obscurité et dans lesquelles la première expérience, c'est celle de la désorientation. C'est pourquoi je crois que nous devons nous intéresser à cette manière dont nous reconnaissons. Voilà la reconnaissance. Dont nous prenons connaissance de la littérature et du roman en particulier avec les pieds, en marchant, comme dans une ville ou dans une maison inconnue. Je crois que c'est l'une des expériences les plus excitantes et je crois que c'est ainsi que les romans nous séduisent. Je vais arrêter ici un instant et comme encore cette fois je n'ai pas d'invité pour le séminaire, nous aurons toujours à partir de janvier, je vais reprendre dans quelques minutes et je ferai donc encore aujourd'hui une deuxième heure.